Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la LBB Radio. Les élèves de seconde 12 ont travaillé d'arrache-pied pour vous concocter un programme très spécial. En cherchant des sujets en rapport avec l'allemand, la plupart des élèves de la classe étant germanistes, on s'est dit ben, pourquoi ne pas mettre en avant l'excellence allemande et l'excellence française dans divers domaines. Nous écouterons donc Mathieu, Martin, Nicolas et Jospin nous parler de la médaille Fields. Louise, May et Caroline feront ensuite un focus sur Hugo Duminil-Copin, lauréat de la médaille Fields 2022. Ce sera ensuite au tour de Tessa et Tina de présenter deux prix Nobel français et allemand. Et on ne peut évidemment pas parler de science sans évoquer Albert Einstein. C'est ce que feront Simon et Louis. Claire, Clémence et Romane accorderont ensuite une place toute particulière aux femmes dans les sciences. On quittera le domaine scientifique avec Milos, Victor et Axel, qui nous parleront de l'excellence dans le sport en France et en Allemagne. Suivi d'Oscar et d'Aloïs, qui se concentreront, eux, sur le biathlon. On continuera ensuite avec Mathis, Paul et Aubry, qui nous emmèneront faire un petit tour en voiture. Nous terminerons cette émission avec un sujet sur le cinéma français et allemand, présenté par Théo, Romain et Thomas. Mais nous accueillons tout de suite Jules, Raphaël et Lucie, qui vont ouvrir l'émission avec un sujet sur les prix Nobel. C'est à vous.
Bonjour à tous, nous sommes allés interroger quelques lycéens pour savoir s'ils connaissaient des prix Nobel.
Connaissez-vous quelqu'un qui a eu un prix Nobel ?
Bonjour, oui, je connais quelqu'un, Nelson Mandela, qui a eu le prix Nobel de la paix.
Connaissez-vous un prix Nobel ?
Oui, le prix Nobel de la paix.
Connaissez-vous quelqu'un qui a eu un prix Nobel ?
Oui, je connais Malala, qui a eu le prix Nobel de la paix.
Comme vous l'avez pu l'entendre, tous nous ont cité uniquement le prix Nobel de la paix. Mais il n'y a pas que celui-là. Petit retour en arrière sur les différents prix Nobel. Le prix Nobel est une récompense remise chaque année aux personnes qui ont fait progresser la recherche ou la société. Les prix Nobel sont attribués, entre autres, dans les domaines suivants.
Physique, décerné par l'Académie royale des sciences de Suède. Chimie, décerné par l'Académie royale des sciences de Suède. Littérature, décerné par l'Académie suédoise. Paix, décerné à un comité nommé par le Parlement norvégien.
Depuis 1968, il a été décidé de ne plus ajouter de nouvelles catégories de prix. Le prix Nobel a été créé d'après les derniers vœux d'Alfred Nobel, inventeur de la dynamite. Son testament, rédigé à partir de 1895, demande que soit créée une institution qui se chargera de récompenser chaque année les personnes qui ont rendu à l'humanité de grands services dans 5 domaines, paix, littérature, chimie et physique. La Fondation Nobel voit le jour en juin 1900.
La première cérémonie pour attribuer le prix Nobel eut lieu dans l'ancienne Académie royale de musique de Stockholm, le 10 décembre 1901. À partir de 1902, les prix furent remis des mains du roi de Suède.
Des récompenses semblables dans d'autres domaines. En 1968, avec l'accord de la Fondation Nobel, la Banque de Suède a institué le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, appelé par abus de langage. Prix Nobel d'économie. Il n'existe pas de prix Nobel de mathématiques, la médaille Fields est un prix équivalent pour ce domaine.
Une récompense accompagnée d'argent. Les lauréats du prix Nobel reçoivent chacun un montant de plus d'un million d'euros, mais qui leur permet également de continuer leurs recherches ou leurs travaux sans subir de pression financière. Quelques personnalités récompensées par le prix Nobel. Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la paix en 1993. En octobre 2009, le président des États-Unis, Barack Obama, lui aussi reçoit le prix Nobel de la paix pour avoir installé un nouvel état d'esprit dans les relations internationales.
Mais aussi, les membres de la famille Curie ont reçu 3 fois le prix Nobel. Pierre Curie et Marie Curie ont obtenu le prix Nobel de physique en 1903 avec Henri Becquerel. Marie Curie a reçu le prix Nobel de chimie en 1911. Leur fille, Irène Joliot-Curie, a obtenu le prix Nobel de chimie avec son mari en 1935.
Le Comité international de la Croix-Rouge obtint le prix Nobel de la paix en 1917, 1944 et 1963. Le Comité international de la Croix-Rouge a été la seule association à recevoir le prix Nobel à trois reprises. L'UNICEF a obtenu le prix Nobel de la paix en 1965. La plus jeune à avoir obtenu le prix Nobel était Malala Yousafzai à l'âge de 17 ans, prix Nobel de la paix en 2014.
Le plus âgé à avoir obtenu le prix Nobel était Leonid Ourzvix à l'âge de 90 ans, prix Nobel des sciences économiques en 2007. On ne peut évidemment pas citer tous les lauréats, mais on espère que vous en savez un peu plus sur les prix Nobel grâce à notre chronique. Merci de nous avoir écoutés.
Alors, merci à vous trois pour toutes ces infos sur les prix Nobel. C'est vrai qu'on en entend souvent parler, sans s'y intéresser de près, mais là, c'est chose faite. Alors, vous avez dit qu'il n'y a pas de prix Nobel en maths, mais la médaille Fields. Alors, j'ai bien envie d'en savoir plus. On va écouter Mathieu, Martin et Nicolas et Jospin qui ont enquêté sur le sujet.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'origine de la médaille Fields ainsi que de ses anecdotes. Enfin, vous assisterez à l'interview exclusive de notre professeur de mathématiques, M. Trikowski, qui nous commentera, selon lui, les principales caractéristiques de la médaille Fields et nous dévoilera son opinion sur les mathématiques de nos jours. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, bonjour. J'aimerais savoir, qu'est-ce que la médaille Fields ?
La médaille Fields est le plus prestigieux prix en mathématiques avec le prix Abel. C'est un peu l'équivalent du prix Nobel en mathématiques inexistant dans cette matière, comme l'ont dit Jules, Raphaël et Lucie précédemment.
Et de quand date ce prix ? Et qui en a eu l'idée ?
C'est lors d'une réunion internationale à Toronto en 1923 que le mathématicien canadien John Charles Fields a proposé la création de cette médaille et a légué sa fortune pour créer cette médaille en 1932 après sa mort. Les premières médailles ont été délivrées en 1936.
Et y a-t-il des conditions pour avoir cette médaille ? Et quel est l'avantage de cette récompense ?
Il faut avoir moins de 40 ans pour pouvoir être récompensé, et cette médaille est délivrée avec 11 000 euros.
D'accord. Et quelle est la différence avec le prix Abel ?
Le prix Abel, lui, est délivré tous les ans et a été créé en 2001 par le gouvernement norvégien à l'occasion du bicentenaire de la naissance du mathématicien norvégien Niels Henrik Abel. Il n'a pas de condition de participation.
Parfait, merci beaucoup. Nous passons la parole à Jospin qui a été posé quelques questions à M. Trikowski.
Est-ce que c'est une bonne chose de créer une médaille en mathématiques pour remplacer l'existence d'un prix Nobel ?
Connaissez-vous quelqu'un qui...
Alors, bon, c'est vrai que le fait que le prix Nobel soit le prix le plus reconnu mondialement pour en particulier le domaine scientifique fait que... comme aucun mathématicien ne peut le recevoir, ça donne une visibilité moins importante à la matière. Donc c'est vrai que du coup, la création de créer une récompense internationale reconnue et qui a une visibilité permet aux mathématiques de retrouver une part importante et originelle dans les sciences.
Vous savez qu'il faut avoir moins de 40 ans pour participer à la médaille Fields. Qu'en pensez-vous ?
Alors c'est vrai que contrairement à la plupart des prix scientifiques qui sont donnés, la médaille Fields a la particularité de n'être donnée qu'à des personnes qui ont moins de 40 ans. Alors, l'idée principale, je pense, est de faire en sorte de montrer que les mathématiques sont une science vivante. Et l'objectif, c'est aussi de montrer que même des chercheurs qui ont eu une carrière assez jeune, puisque les gens qui vont rentrer dans le monde de la recherche vont le faire autour de leurs 25 ans, mais très tôt dans leur cursus, ils ont pu faire avancer les sciences et les mathématiques de manière générale, de manière très importante. Donc c'est une limite aussi qui permet aussi à certains d'avoir un challenge. Par exemple, Cédric Villani, dans son livre Théorème vivant, indique bien que pour lui, ça a été un challenge justement du fait qu'il y ait une limite d'âge pour essayer de, coûte que coûte, trouver un résultat qui puisse être à la hauteur d'une récompense internationale.
Salut Nicolas, est-ce que tu pourrais nous donner la raison pour laquelle il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques ?
Une légende dit qu'il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques parce que l'épouse d'Alfred Nobel l'a trompé avec un mathématicien et qu'Alfred Nobel n'a pas voulu donner ce prix à ce mathématicien. mais ce n'est qu'une légende, vu qu'Alfred Nobel n'était pas marié. Il existe aussi une autre version qui raconte qu'un autre prix prestigieux de mathématiques existait déjà de son vivant. Ce prix a été remis par le roi de Suède. De plus, Nobel ne s'intéressait pas aux mathématiques. Pour lui, les mathématiques étaient plutôt un outil pour la physique et la chimie.
Mais alors, quelle est la véritable raison de cette absence de prix Nobel en mathématiques ?
En réalité, Nobel ne s'est jamais expliqué à ce sujet. En 1895, lorsqu'il rédige son testament, seulement 5 catégories sont récompensées : la paix, la littérature, la médecine, la physique et la chimie, mais pas les mathématiques. On pense qu'en réalité, il pensait que tout était découvert dans cette discipline.
Merci pour ces précieuses informations. Je repasse la parole à Jospin, qui a une dernière question à poser à M. Trikowski.
Pensez-vous qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir en mathématiques, ou pensez-vous, comme Alfred Nobel, que tout a été découvert ?
Alors c'est vrai que globalement, beaucoup de personnes, Alfred Nobel, mais aussi des personnes qui sont éloignées du domaine des sciences, ont tendance à penser que les mathématiques sont une matière du passé, antique, que tout a été fait. Bien sûr, force est de constater que, avec les enjeux actuels du numérique et les enjeux aussi des démarches scientifiques quant aux décisions politiques, font que les mathématiques sont plus que encore hier une matière très importante à étudier et qui, surtout qui permet de faire de la prospective. Je rappelle quand même que globalement, nombreux sont les résultats mathématiques qui ont débouché sur des applications des dizaines, voire des centaines d'années après leur découverte. Donc oui, il y a beaucoup de choses à découvrir en mathématiques, sans doute plus qu'on ne le croit, et donc pour lesquelles pas encore connues.
Alors, on pourrait remercier M. Trikowski d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci les garçons aussi pour toutes ces informations. Je suis maintenant incollable sur la médaille Fields. D'ailleurs, il me semble qu'un Français l'a récemment remportée. Alors Louise, May et Caroline, je suis sûre que vous allez pouvoir m'éclairer. D'autant que je crois savoir que Caroline s'est mise dans la peau d'Hugo du Millicopin pour les besoins de l'émission.
En effet, un Français a remporté la médaille Fields en 2022 pour ses travaux sur des modèles de particules en interaction. Il s'agit d'Hugo Dominique Copin. Mais qui est-il ?
D'où vous est venue l'envie de travailler dans les mathématiques ?
J'ai toujours été intéressée par les mathématiques, mais je ne peux pas dire que j'ai été élevée pour devenir mathématicien. Mes parents ont toujours voulu que je sois formée à des choses très diverses, comme le sport, la musique et les sciences, qui faisaient partie de ces choses. En fait, au début, je m'intéressais à l'astronomie et les sciences... À l'astronomie plutôt qu'aux mathématiques. Je faisais partie d'un club quand j'avais 10 ans et j'ai adoré ça, mais ensuite j'ai réalisé que ce n'était peut-être pas exactement le type de science que je voulais faire et j'ai essayé de me diriger vers les mathématiques et la physique qui étaient les deux choses que j'aimais.
Quand avez-vous su que vous souhaiteriez devenir mathématicien ?
C'est tout simplement quand je suis rentrée en études supérieures et que j'ai dû choisir entre la physique et les maths. J'ai donc choisi les mathématiques et j'ai eu un excellent prof, Jean-François Le Gall, qui a un jour donné un cours absolument merveilleux sur les probabilités et on avait vraiment l'impression de tout comprendre sans effort. Et c'est là que je suis complètement tombée amoureuse de ce domaine. Donc j'ai décidé de faire un master en probabilité en région parisienne et je trouvais cela parfait. Ce qui a fait grandir mon amour pour les maths et j'ai su que c'est ce que je voulais réellement faire.
À quoi vous servent les mathématiques dans la vie d'aujourd'hui ?
Aujourd'hui et tous les jours, les maths, ça m'aide au niveau intellectuel. Je trouve que j'ai une façon de raisonner assez soignée et cela est dû à mes habitudes mathématiques. Cela m'aide aussi pour les choses futiles comme le bricolage, la cuisine et mes courses.
Pourquoi apprendre les mathématiques aujourd'hui ?
Pour moi, les maths, c'est ce qui développe nos pensées, nos compréhensions. Et comme je l'ai dit, ça a permis d'avoir un raisonnement rapide et incroyable, ce qui est une très grande qualité.
Comment motiver les jeunes à faire des mathématiques ?
La principale des choses, c'est de leur montrer qu'ils sont capables de réussir, même si ça prend du temps et qu'on ne comprend pas tout de suite. Leur faire apprendre tout en rendant ludique, aussi pour ne pas les dégoûter des maths, au contraire, les faire aimer.
Alors, merci Louise, May et Caroline. Alors, pour moi qui suis très mauvaise en maths, j'avoue que ça donne vraiment envie de s'y intéresser. Alors, après avoir parlé des mathématiques, voyons maintenant si Tessa et Tina arriveront à susciter mon intérêt pour la physique et la chimie. À vous les filles.
Bonjour et bienvenue sur le plateau radio de PCT Physique Chimie Time. Aujourd'hui, nous accueillons Valentin, un étudiant tout droit venu de l'ENCPB, pour échanger sur le thème de l'excellence à la française et à l'allemande en sciences, plus particulièrement sur les prix Nobel de physique et de chimie en France et en Allemagne. Bonjour Valentin, pourrais-tu te présenter ?
Je m'appelle Valentin, j'ai 20 ans et j'étudie les sciences à l'École nationale de physique, chimie et biologie de Paris.
Alors, que peux-tu nous dire sur le prix Nobel de physique et de chimie ?
En cours, on a un peu étudié ce sujet, donc ça tombe bien. Je sais que le prix Nobel de physique et chimie ont le même principe. Ils servent à récompenser une personne qui a réussi à mettre en place des travaux considérés comme une exceptionnelle contribution en physique et qui a rendu de grands services à l'humanité selon les dernières volontés d'Alfred Nobel. Après la révélation du nom du lauréat début octobre, la médaille et le diplôme sont remis par le roi de Suède le 10 décembre, soit le jour de l'anniversaire de la mort du fondateur du prix.
Bravo, on peut voir que tu maîtrises très bien le sujet.
Et sais-tu combien la France et l'Allemagne en ont remporté ?
Oui, en physique, la France en a reçu 15 et 10 en chimie. L'Allemagne, elle, en a reçu 70 physiques et chimie confondues. Cette année, c'est Alain Aspect qui l'a obtenu pour la France et Benjamin List l'année dernière pour l'Allemagne.
Alain Aspect est l'auteur d'une découverte fondamentale dans les années 1980. On appelle ça l'intrication quantique. Pour commencer, la physique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit. Et l'intrication, on pourrait traduire ça par le désordre, par quelque chose d'entremêlé. Concrètement, cela veut dire qu'Alain Aspect a prouvé que l'on pouvait mélanger deux particules, puis les séparer et s'apercevoir que, quelle que soit la distance entre elles, elles restent dépendantes. Si on modifie l'une, on modifie l'autre. C'est un phénomène très intriguant, difficile à expliquer, mais qui ouvre la porte à la téléportation.
Oui, et c'est d'ailleurs pour cela qu'Albert Einstein avait émis l'hypothèse de l'intrication, mais l'avait qualifiée de théorie effrayante et avait finalement conclu qu'il n'y croyait pas. Il avait d'ailleurs reçu le prix Nobel de physique en 1922. Le français Alain Aspect est récompensé tout juste 100 ans plus tard pour une découverte qui contredit son illustre prédécesseur.
Après vous avoir donné toutes ces informations, nous allons maintenant vous parler du prix Nobel de chimie allemand obtenu par Benjamin List et son collègue David McKillen en 2021.
Benjamin List est un professeur de chimie et chimiste allemand né en 1968. Depuis plus de 10 ans, ses recherches sont financées par le Conseil européen de la recherche. Le 6 octobre 2021, il obtient le prix Nobel de chimie avec son collègue David McKillen pour le développement de l'organocatalyse asymétrique, un nouvel outil de construction des molécules qui a permis d'améliorer la recherche pharmaceutique et de la rendre plus verte. Les catalyseurs, substances qui accélèrent les réactions chimiques et les contrôles, sont importants dans la capacité des chimistes à construire des molécules, surtout dans la fabrication des médicaments en médecine.
Ce que les chimistes ne savaient pratiquement pas faire sans utiliser, comme catalyseur, des métaux. Certains de ces métaux pouvaient être très nocifs. Ils nécessitaient un travail très précis et compliqué. Il devait être travaillé à vide ou sous azote, un produit très polluant. L'utilisation des catalyseurs organiques permet d'éviter tout cela et est donc meilleure. Elle coûte en plus moins cher.
Plus respectueuse de l'environnement, moins coûteuse et plus facile à travailler, on comprend très bien pourquoi cette technique a autant de succès.
Ces deux exemples tout à fait récents nous montrent que la France et l'Allemagne
étaient et sont toujours des pays d'excellence en sciences.
Merci pour votre écoute assidue et à la prochaine fois sur Physique Chimie Time.
Alors, eh bien, on voit bien que la France et l'Allemagne brillent dans ces deux domaines. Mais je me pose une question. Est-ce que la science est toujours synonyme de progrès pour l'humanité ? Alors, Simon et Louis, vous allez nous éclairer.
Toutes et à tous, c'est en effet une bonne thématique. Nous allons justement vous démontrer que les progrès de la science n'ont pas apporté que du bon dans le monde. Pour cela, nous allons vous parler d'un exemple en particulier, l'invention de la bombe nucléaire par Albert Einstein.
Tout d'abord, nous allons vous parler d'Albert Einstein, qui est un très grand scientifique allemand du XXe siècle, et comme vous le savez tous, qui est réputé pour avoir découvert la formule chimique E égale MC2. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il a participé sans le vouloir à la création de la bombe nucléaire, lui qui était pacifiste, car c'est en s'appuyant sur cette formule que l'on a appris à utiliser l'énergie nucléaire, dans ce cas pour fabriquer une arme mortelle.
En effet, après la guerre et jusqu'à sa mort, il a milité pour un désarmement atomique mondial, afin d'éviter de nombreuses catastrophes et de nombreux conflits mondiaux. Même si de nos jours, encore certaines tensions ne sont pas encore apaisées. On constate donc dans ce cas que l'évolution scientifique a eu de graves effets et qu'elle n'est pas bénéfique pour l'homme.
Certains chercheurs disent que ce n'est pas grâce à la découverte d'Einstein que la bombe nucléaire a été créée, mais plutôt à cause de la découverte par hasard de la fission nucléaire. Cela remettrait donc en cause les accusations sur Albert Einstein, mais conclurait toujours que c'est la science qui est à l'origine de ce désastre.
Par exemple, d'autres chercheurs ont aussi prouvé que pour éviter qu'Hitler ne s'approprie de la bombe nucléaire, Einstein aurait envoyé une lettre au président américain Roosevelt pour le prévenir de cette menace et qu'il devance le chancelier allemand. Ce qui a mené à la création du projet Manhattan, qui a permis aux États-Unis de se doter de la bombe A, qui servira pour les bombardements de Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Son avertissement a quand même eu de lourdes conséquences, puisqu'il a entraîné la destruction des deux villes et tué de nombreuses personnes. Dans le camp des guerres, majoritairement, l'évolution scientifique est néfaste pour l'humanité, car elle entraîne des dommages massifs ainsi que le chaos. De nouvelles armes toujours plus destructrices sont mises au point à cause de celles-ci, et promettent un avenir de plus en plus cruel pour les hommes, comme nous pouvons le constater notamment avec l'exemple donné précédemment, la bombe nucléaire qui menace notre espèce très fortement.
La bombe nucléaire est bien un progrès scientifique et militaire, mais cette arme est très dangereuse en raison de sa puissance, mais aussi dangereuse en force de dissuasion. Elle est issue de l'évolution scientifique, mais depuis sa création ne cause que la mort et la destruction. Elle a été mise en œuvre par un Allemand lors de la Seconde Guerre mondiale et nous montre clairement à quel point la science peut être dangereuse.
Alors, merci Simon et Louis, mais ça fait quand même un peu froid dans le dos hein, de se remémorer cet épisode de l'histoire. Alors, nous sommes à peu près à la moitié de l'émission et je constate que nous n'avons pas encore entendu parler de femmes scientifiques. Qu'en est-il ? Je ne crois pas me tromper en disant que des femmes ont quand même également été récompensées pour leurs travaux. Alors, Claire, du coup, et Clémence, vous confirmez ?
Bonjour. Nous avons choisi ce sujet parce que nous trouvons que les femmes scientifiques sont moins reconnues que les hommes, alors qu'elles sont tout aussi compétentes et qu'elles ont fait tout autant de découvertes. Nous allons commencer par vous faire écouter un micro-trottoir avec des questions posées aux élèves. Ensuite, nous allons parler des femmes qui ont changé le monde scientifique, mais qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'elles méritaient, comme Rosalind Franklin.
Et nous finirons par vous présenter les prix Nobel gagnés par les femmes comparés à ceux gagnés par les hommes. Donc les questions qui ont été posées lors du micro-trottoir sont instinctivement, à quel scientifique pensez-vous ? Connaissez-vous une femme qui a gagné un prix Nobel et un homme ?
Citez-moi un scientifique, celui que vous voulez.
Isaac Newton.
Merci. Ensuite, est-ce que vous connaissez une femme qui a reçu un prix Nobel ?
Une femme, non.
Aucune ?
Non.
D'accord. Et un homme ?
Oui, je crois qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Linus Pauling, je crois.
Donc, dites-moi n'importe quel scientifique.
Einstein.
Connaissez-vous une femme qui a reçu un prix Nobel ?
Non plus, j'en connais pas.
Et un homme ?
Non.
Tant pis, merci beaucoup.
Quel est le premier scientifique qui te vient en tête ?
Pierre Curie.
Connais-tu une femme qui a reçu un prix Nobel ?
Non.
Et un homme ?
Il y a aussi Pierre Curie.
Quel est le premier scientifique qui te vient en tête ?
Albert Einstein.
Et est-ce que tu connais une femme qui a reçu un prix Nobel ?
Non.
Et un homme ?
Albert Einstein.
Par rapport aux réponses que nous avons eues, nous pouvons voir que les gens pensent tout d'abord à des scientifiques masculins. Les hommes sont beaucoup plus connus dans le monde scientifique que les femmes. Comme on peut le voir avec le micro-trottoir, aucune femme n'a été citée alors qu'elles ont une place tout aussi importante que les hommes. Mais les gens n'accordent pas aux femmes un mérite équivalent à celui des hommes.
On ne peut pas affirmer avec certitude que la place de la femme dans le monde scientifique est inférieure à celle des hommes. Par exemple, pour le cas de Marie Curie, on ne sait pas si c'est grâce à son mari que son nom a été connu ou si c'est du fait de ses propres recherches que les gens l'ont autant admirée. C'est le cas de plusieurs femmes scientifiques qui, malgré leurs très bons travaux, sont ou pas reconnues pour leurs propres travaux.
On a vu avec le micro-trottoir que les gens ne connaissaient pas beaucoup de femmes scientifiques et pourtant, certaines ont fait énormément avancer la science, comme par exemple Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, une femme scientifique qui n'a pas été reconnue pour son propre travail.
Chimiste britannique Rosalind Franklin est célèbre de nos jours pour avoir découvert la structure à double hélice de l'ADN, une avancée majeure pour la science. Pour autant, au moment de la découverte, c'est à trois autres scientifiques de sexe masculin qui est revenu tout le mérite. James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins, ils ont reçu le 18 octobre 1962 le prix Nobel de médecine. Ces trois hommes scientifiques pensaient que l'ADN avait une structure en trois hélices, mais Rosalind Franklin a découvert que l'ADN avait une structure en double hélice.
La biologiste a parti de l'effet Matilda, ce phénomène qui désigne le fait que les recherches effectuées par des femmes sont souvent oubliées au profit de celles réalisées par des hommes. Maintenant, nous allons évoquer les prix Nobel gagnés par des femmes et ceux gagnés par des hommes.
Le prix Nobel a été en tout attribué 44 fois à des femmes contre 785 fois à des hommes. 8 femmes le méritaient mais n'en ont pas reçu. Elles se l'ont fait voler leur travail par des hommes.
Alors, merci beaucoup les filles d'avoir apporté un petit peu de féminité à cette émission. Alors, quittons maintenant le domaine des sciences pour celui du sport. Milos, Victor et Axel, comment se débrouillent la France et l'Allemagne dans ce domaine ?
Depuis toujours, l'Allemagne et la France sont deux pays qui recèlent de nombreux talents sportifs. Nous allons donc vous présenter l'excellence sportive française et allemande avec un top 5 des plus grands champions de ces deux pays, toutes compétitions confondues.
Nous allons commencer avec Tony Parker, en 5e position, qui a révolutionné le basketball français.
Effectivement, on ne saurait pas quoi évoquer en premier de la carrière de Tony Parker.
Oui, est-ce que l'on parlera plutôt de ses 4 titres de champion de NBA avec San Antonio Spurs, dont celui de 2007, auréolé du titre de meilleur joueur des finales, un exploit jusque-là jamais accompli par un Européen ? Est-ce que l'on abordera plutôt le titre de champion d'Europe 2013 avec l'équipe de France, dont il est élu meilleur joueur de la compétition ? Est-ce que l'on parlera de ses 6 sélections au All-Star Game ou bien de ses records à n'en plus finir ?
Avec cet impressionnant palmarès, on pourrait donc le placer au même rang que les meilleurs.
Tony Parker est incontestablement le plus grand basketteur français, et il n'est pas loin de figurer parmi les plus grands joueurs non américains de l'histoire.
Il a aussi été l'un des acteurs majeurs de l'internationalisation de la NBA durant les années 2000.
Oui, et on peut l'en remercier car c'est une nouvelle génération dorée qui se rue aujourd'hui défier les géants américains.
À la 4e place, nous avons choisi de vous parler de l'impressionnant Franz Beckenbauer, un joyau parmi tous les superbes joueurs de la sélection allemande de football.
C'était un grand joueur et il en possédait les caractéristiques.
En effet, la légende du Bayern Munich était un leader, un modèle et surtout un footballeur complet. Dans ses nombreuses qualités, son sang-froid et sa capacité à dicter le jeu sont certainement celles qui le caractérisent le plus. Il a d'ailleurs donné naissance à un nouveau genre de défense plus moderne dans le monde du football.
Il a également remporté de nombreux titres et c'était un élément indispensable à la sélection allemande.
Oui, nommé 2 fois Ballon d'Or en 1972 et 1976, Beckenbauer a joué 103 matchs en sélection pour l'Allemagne et participé à 3 Coupes du Monde. Il a d'ailleurs joué un rôle déterminant dans le triomphe de son équipe à la Coupe du Monde 1974 et a réussi le même exploit en tant qu'entraîneur 16 ans plus tard.
Beckenbauer était le meilleur à son poste et il le reste probablement.
Il est vrai que, même si sa réputation s'est dégradée en raison de corruption, Der Kaiser est un joueur dont les capacités ne sont pas à remettre en question. Il est déjà entré dans l'histoire comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de tous les temps.
Nous allons continuer avec encore du football car c'est Zinedine Zidane qui occupe la dernière marche du podium.
On ne le présente plus, Zizou a fait vibrer toute une génération.
Que ce soit en 1998 et son doublé en finale de la Coupe du Monde, ou bien en 2006, menant une épopée avec une fin tragique, en passant par un Euro 2000 renversant, Zinedine Zidane s'est aujourd'hui offert une place parmi les plus grands.
Il faut aussi dire que son palmarès parle pour lui.
En effet, le Ballon d'Or 1998 est encore cité parmi les plus grands footballeurs de tous les temps. Il a gagné une Coupe du Monde, un Euro, mais pas seulement, en club aussi. L'international français a remporté des titres en pagaille, comme aux Girondins de Bordeaux, à la Juventus et au Real Madrid. Ce sont trois clubs qui l'auront marqué profondément, d'autant plus qu'en tant qu'entraîneur du Real Madrid, il a soulevé trois fois la Ligue des Champions sur trois ans.
C'est vraiment le sportif français de référence.
Et oui, pendant très longtemps, la personnalité préférée des Français, Zidane, est un incontournable de l'histoire sportive française.
On retrouve ensuite à la deuxième place de ce classement Michael Schumacher, le pilote de Formule 1 le plus titré de l'histoire.
Le sportif allemand par excellence, prodige de son sport, Michael Schumacher est un pilote automobile mondialement célèbre et largement récompensé.
En effet, avec 7 titres de champion du monde de Formule 1, 91 victoires en Grand Prix de Formule 1 et 68 pole positions, il possède incontestablement l'un des plus beaux palmarès de ce sport. En tant que détenteur de la plupart des records de la Formule 1, Schumacher est l'un des plus grands champions du sport automobile et marque autant l'esprit des générations récentes que celui des plus âgés.
Le sportif allemand était capable de s'adapter et resta pendant très longtemps le meilleur pilote actif.
Oui, en étant passé chez Mercedes, Benetton et Ferrari, il a su se maintenir pendant toute sa carrière au top niveau mondial, peu importe son écurie. Une grande preuve de son talent.
Il a réellement laissé sa marque dans la Formule 1 comme le meilleur pilote.
Effectivement, après l'annonce de sa retraite sportive en 2006, on constate clairement que Schumacher a laissé une trace immense dans l'histoire de ce sport en tant que numéro 1. Indiscutable et a grandement permis de le populariser, laissant place à une nouvelle génération dorée.
Pour finir, c'est un choix plutôt osé, mais Teddy Riner est selon nous le plus grand sportif français et allemand confondu de tous les temps, alors qu'il est le seul de ce classement encore en activité. Nous parlons ici du judoka le plus titré de l'histoire du judo, surpassant même tous les champions japonais à avoir pratiqué cet art.
Mais pour justifier ce classement, il faut remettre les choses en perspective, puisqu'il s'agit d'un champion d'un sport individuel, tout comme Michael Schumacher.
Oui, et nous parlons ici d'un beau bébé de 148 kg pour 2m04, 10 fois champion du monde, médaillé olympique à 4 reprises, dont doublement en or et 5 fois champion d'Europe. Sans parler de son palmarès en équipe qui est tout aussi impressionnant. Qu'en sera-t-il après les Jeux de 2024, auxquels il a la ferme intention de participer ?
L'époustouflant judoka français possède une domination incontestée sur son sport et il lui reste encore quelques années où il va probablement continuer à impressionner le monde.
Oui, car bien que sa domination semble exister depuis toujours, Teddy Riner n'a aujourd'hui que 33 ans. Avec son gabarit particulièrement imposant, il reste très agile et technique. Il n'a connu que 3 défaites dans toute sa carrière professionnelle et a enregistré une invincibilité durant plus de 9 ans. Sa domination sur la discipline est tout simplement surréaliste et aussi loin qu'on puisse chercher, aucun sportif français n'a pu être à ce point, n'a pu être à ce point la définition de l'excellence dans son sport.
Alors merci à vous pour ce petit tour sportif. Oscar et Aloïs, alors je crois que vous voulez nous parler d'un autre sport. C'est à vous les garçons.
Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de deux femmes qui montrent l'excellence française et allemande dans le sport. Justine Brezaz-Boucher est née le 4 juillet 1996 à Albertville et une médaille d'or en départ groupé, le Mastart. Par ailleurs, aucune Française n'avait été médaillée en Mastart aux Jeux Olympiques.
Justine Brezaz-Boucher apporte sa 3e médaille d'or en biathlon. Et la 7e au total. Ça fait 5 médailles d'or en épreuve individuelle, une médaille d'or en global et une au départ groupé au biathlon. C'est un record. La mass start est généralement la dernière épreuve individuelle au programme. Et le nombre de participants est fixé à 30. Mais peux-tu m'expliquer les règles ?
Les 25 premiers du classement général de la Coupe du Monde et les 5 meilleures performances des courses de l'étape en cours peuvent participer à cette épreuve. 5 tours de circuit et 4 séances de tir sont au programme de cette course. 2 tirs couchés, suivis de 2 tirs debout, une boucle de 150 mètres supplémentaires par cible manquée. Pour les femmes, cette épreuve à bord distance 12,5 km. Peux-tu nous présenter la seconde athlète ?
Parlons maintenant de Denise Herrmann. Elle est née le 20 décembre 1988 à Bad Schlema. C'est une fondeuse et une biathlète allemande. En biathlon, elle remporte ses 2 premières victoires en Coupe du Monde, le 1er et 3 décembre 2007 à Östersund, en gagnant le sprint puis la poursuite. Elle est sacrée championne du monde de la poursuite le 10 mars 2019, aussi à Östersund.
Lors de la saison 2019-2020, elle s'affirme comme la meilleure biathlète allemande et remporte son premier trophée de cristal, le petit globe du sprint. Le 7 février 2022, elle obtient la médaille d'or de l'individuel aux Jeux Olympiques de Pékin. Peux-tu m'expliquer ce qu'est la course individuelle ?
L'individuel est une course contre la montre, où les biathlètes partent un par un avec un écart de 30 secondes. Le biathlète doit faire 5 fois le parcours prévu.
Les 4 premiers étant marqués d'une séance de tir, dont l'ordre est le suivant, tir couché, tir debout, tir couché, tir debout.
L'individuel est la seule épreuve du biathlon où une erreur au tir condamne le participant d'une minute de pénalité, et non un tour de pénalité.
Alors, merci Oscar et Aloïs. C'est vrai qu'on entend quand même un peu moins parler du biathlon. Et maintenant, si nous allions faire un petit tour en voiture avec Mathis, Paul et Aubry.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on accueille Audi, Porsche
et Bugatti.
Bon, les gars, je pense que vous savez pourquoi vous êtes là. On a un gros problème. 2018, 2019, 2020, 2021 et maintenant 2022, qui a gagné la célèbre et légendaire course de l'automobile du Mans ? Ce n'est pas Porsche, ni Audi, ni Bugatti. BMW, je n'en parle même pas. C'est Toyota. 5 années de suite. Là, il y a besoin de renouveau, d'idées de changement. Je tiens à vous rappeler que nous sommes censés être les meilleurs dans l'industrie de l'automobile.
Ah ! Parlez pour vous, moi Porsche, j'ai gagné le plus de fois cette course. Alors, ce n'est pas de ma faute si vous êtes moins bien classé que les Japonais. On en parle de tes accidents, au moins, chez Audi, il n'y a pas eu de mort.
Bon, ça suffit. On n'est pas là pour s'embrouiller, on est là pour régler ce problème.
Regardez, à l'époque, on se démarquait bien.
Oui, c'est vrai. Regardez, Audi est la voiture avec le taux de fiabilité le plus haut sur le marché.
En effet, cela favorise la clientèle.
Alors que quant à moi, mon compteur passe de 0 à 100 en 2 secondes 9. Impressionnant, non ?
Oui, c'est vrai, mais nous nous sommes quand même fait subtiliser nos titres de renommée par l'automobile japonaise.
Et oui, c'est pour ça qu'il faut absolument redorer notre blason. Souvenez-vous des années 1900, la Bugatti Type 2 que nous avons présentée était dotée d'un moteur révolutionnaire pour l'époque.
Souvenez-vous aussi d'Audi qui, le 19 juin 1932, s'était démarqué par l'initiation de la création d'Auto Union AG, née de la fusion des 3 constructeurs d'automobiles, Saxon, Audi, DKW, Horsch et du département automobile de Vanderer.
Et pour finir, rappelez-vous qu'il y a exactement 25 ans, la Porsche 911 sauvait l'indépendance de la marque à l'aide du Boxster. C'est une contradiction du Boxster, du nom du moteur à plat flat et de Roadster qui désigne un petit cabriolet à 2 portes et 2 places.
Bon, pas besoin de s'énerver, je pense juste qu'on n'est pas assez axé sur le futur et l'innovation. Qu'est-ce que c'est le futur de l'automobile ? C'est l'autonomie et l'électrique. Moi en premier, il n'y a aucune voiture électrique chez Bugatti, il n'y en aura aucune jusqu'en 2030. En effet, dans l'image des gens, Bugatti est lié au moteur thermique comme Tesla est lié au moteur électrique. Mais regardons maintenant vers l'avenir. Bugatti, par exemple, prépare son prochain modèle de voiture pour 2024. La Rimac Nevera, qui sera officiellement hybride et ultra-performante.
Et Audi, quant à elle, lancera son nouveau Audi Q6 e-tron, un SUV totalement électrique qui fera ses débuts fin 2023 et sera commercialisé début 2024. Et sans parler de sa variante Sportback, qui sera lancée sur une date ultérieure.
Pour terminer, moi, Porsche, je vais continuer de développer ma version électrique de mon Macan. Une façon pour moi de tenir des ventes totales en 2021. Le SUV Porsche Macan se verra proposer bientôt 30% de sa version complètement électrique.
Mais qu'en est-il de Porsche ? Pourquoi a-t-elle marqué l'histoire de l'automobile ?
Je vais vous parler de mon histoire. J'ai été créé par Ferdinand Porsche. Ma première voiture est la Launer Porsche. Elle a été présentée à l'Expo Universelle de Paris en 1908. J'ai marqué mon histoire grâce ou à cause de ma deuxième voiture qui est très spéciale. Elle répondait aux exigences d'Hitler. Cette voiture est la Coccinelle Porsche 356 Speedster appelée en France et en Allemagne elle est appelée Volkswagen qui se traduit voiture du peuple.
Impressionnant, je sens la passion pure de l'automobile dans ton histoire. Mais n'oubliez pas que Le Mans c'est bientôt.
Ouais c'est sûr, le 10 juin on en voit. Il ne faut pas se marcher sur les pieds, le futur c'est nous.
Alors, merci les garçons pour cette balade plutôt rapide. Alors, un peu de culture maintenant avec cette dernière chronique, avec Théo, Romain et Thomas, qui vont nous parler du cinéma.
Le cinéma allemand, le cinéma français, c'est qui, c'est quoi, c'est quand?
Pour commencer, le cinéma, c'est quoi?
Communément admis comme créé à la fin du 19e siècle par les Français Louis et Auguste Lumière, appelés les Frères Lumière, le cinéma est le 7e art. Il est créé par une suite d'images grâce à différents supports, numériquement, avec une bande magnétique, ou bien une animation d'illustration. Il s'est développé au fur et à mesure du temps, de muet à parlant, en noir et blanc, puis en couleur. Les moyens qui permettent de voir tous ces nouveaux films sont eux aussi diversifiés. Là où seul le cinéma et quelques chaînes de télévision permettaient le visionnage, on a maintenant accès à des milliers de films sur nos téléphones et ordinateurs.
Revenons maintenant sur les grandes figures du cinéma. Un des plus grands précurseurs de cet art est allemand. Il s'appelle Friedrich Wilhelm Murnau, et c'est une vraie inspiration pour tous les réalisateurs qui l'ont suivi. Il fait partie du mouvement expressionniste allemand.
Le cinéma expressionniste ?
Oui, le cinéma expressionniste allemand est né au début du XXe siècle et était caractérisé par des réalisateurs qui manquaient de moyens.
Donc c'est juste les films réalisés par les gens les plus pauvres ?
Non, non, pas du tout. Ce manque de moyens les obligeait à utiliser des décors abstraits et géométriques, des jeux d'ombre et de lumière, et surtout à se concentrer sur la mise en scène pour créer une ambiance.
Et du coup, il a fait quoi Murnau ?
Beaucoup de films. Le plus connu et apprécié est sûrement L'Aurore. Sorti en 1927, le film montre l'histoire d'un homme qui, après avoir essayé de noyer sa femme, va passer une belle journée avec elle. Rien de vraiment particulier par rapport au scénario de L'Aurore. C'est la mise en scène qui va sortir ce chef-d'œuvre du lot. Chaque scène invente un nouveau procédé de réalisation.
Bon, on va peut-être parler un peu du cinéma français, non ?
Ah, voilà un sujet que je connais bien. Un des réalisateurs les plus cités comme inspiration par les nouveaux réalisateurs est sûrement Jean-Pierre Melville. Comme Murnau, Melville réalisait des films qui utilisaient les jeux d'ombre et de lumière, très graves et sombres.
C'est une copie française de Murnau, du coup.
Non, loin de là. Jean-Pierre Melville avait un style beaucoup plus géométrique, sobre. Les scènes se déroulaient souvent dans des pièces carrées au décor succinct. C'est le cas de son film le plus célèbre, Le Samouraï, qui donnait le rôle-titre à Alain Delon. Sorti en 1967, l'œuvre raconte l'histoire d'un tueur à gages poursuivi par la police.
Ça donne envie. Mais on ne parle que des films anciens depuis le début. N'y a-t-il plus de réalisateurs français depuis Melville ?
Ah si, il y en a plein. Il y a même des réalisateurs français tournant à l'international, avec des acteurs d'autres pays.
Vraiment ? Comme qui par exemple ?
C'est le cas de Léos Carax. Il a sorti son dernier film en 2021, Annette, qui mettait en scène un couple de célébrités qui après leur naissance, la naissance de leur fille, commençait à se briser. Le film a même gagné la palme du meilleur film à Cannes.
Mais du coup, en quoi il est mondialement connu ? Cannes, c'est français ?
Annette avait pour rôle principal Marion Cotillard, une Française, et Adam Driver, un Américain ayant par exemple joué le rôle de Kylo Ren dans Star Wars. Et c'est des Américains, les Sparks, qui ont composé la musique de cette comédie musicale.
La classe. Je peux te citer des réalisateurs allemands ayant récemment fait des films, moi.
Je n'en entendais pas moins de toi.
En 2019, ce n'est pas un réalisateur qui gagne l'ours d'argent à Berlin, mais une réalisatrice. Angela Skanelek pour son film Ich war zu Haus, aber, ou J'étais à la maison, mais, en français.
Ah oui, c'est plutôt récent.
Et elle n'est pas prête de poser la caméra. Elle sortira Musique en 2023, un film librement inspiré par le mythe d'Oedipe.
C'est super intéressant, merci.
Oui, l'heure tourne. Je crois qu'il est temps de conclure.
Que dire de plus à part que l'Allemagne et la France ont toujours eu et auront toujours des grands talents en cinéma ?
Ah, ça c'est sûr, il y en a de tous les styles et toutes les époques, tous plus singuliers les uns que les autres. Il y en a pour tous les goûts.
Il suffit de fouiller un peu pour découvrir des pépites.
C'est ça aussi le cinéma, c'est beau.
Alors, c'est malheureusement l'heure de se quitter. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous remercions les élèves de seconde 12 pour leur implication dans la réalisation de cette émission. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés.